des conflits humains sont déclenchés par des choses toutes bêtes. Parfois des différences de personnalité, des malentendus, souvent des détails. Et je doute que nous-mêmes présents ce matin échappions complètement à la règle. Un couple qui se dispute en voiture, l'un pense qu'il faut tourner à gauche et l'autre à droite. Une collègue qui s'emporte parce qu'on n'a pas mis en copie de tel courriel, etc., etc. Mais à vrai dire, de tels motifs futiles sont rarement la raison profonde d'un conflit. Le plus souvent, c'est lorsque la confiance fait défaut. Lorsque la confiance fait défaut, que la moindre petite différence de personnalité ou d'approche peut donner lieu aux pires suspicions ou accusations. Les relations entre l'apôtre Paul et l'église de Corinthe n'étaient pas simples. On le voit déjà lorsqu'on lit sa première lettre. C'est sa deuxième lettre que nous allons lire ce matin, pour un extrait en tout cas. Paul était accusé par certains de ne pas être un orateur assez impressionnant, assez éloquent. D'autres, semble-t-il, lui reprocher, c'est un peu étonnant, de ne pas demander de soutien financier, mais de chercher peut-être à récupérer cet apport d'une autre manière, indirecte. D'autres le méprisaient à cause de ses problèmes de santé, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et dans sa seconde lettre aux Corinthiens, que nous avons commencé d'étudier il y a un mois, on voit que la relation entre Paul et les Corinthiens reste fragile. Peu avant la rédaction de cette lettre, l'apôtre a fait une visite à Corinthe, peut-être une visite inattendue, et ça s'est mal passé, au point qu'il a fini par partir de façon quelque peu précipitée. Paul va alors modifier ses projets. Il avait initialement prévu de revenir rapidement à Corinthe, mais finalement il préfère d'abord écrire une lettre qu'il envoie par l'intermédiaire de son collaborateur Tite, et il remet sa propre visite à un peu plus tard. Or, ce changement de programme, a priori à peu près plus ou moins anodin, va être la source d'une nouvelle tension avec les Corinthiens. Certains, en tout cas, vont accuser Paul d'inconstance, de dire une chose et d'en faire une autre. Et l'apôtre va répondre à cette accusation. Mais il va surtout élargir la question pour rétablir la confiance entre lui-même et les Corinthiens. Et cette confiance qu'il cherche à rétablir, il va la fonder sur la confiance absolue que les Corinthiens devraient avoir en Dieu. Je vous invite donc à lire notre texte. Nous sommes dans la deuxième lettre aux Corinthiens et nous allons commencer au chapitre 1, verset 12, chapitre 2, verset 13. Je lis dans la traduction Second 21. Si vous souhaitez suivre dans les Bibles bleues, c'est une traduction légèrement différente, mais seulement légèrement. Et c'est à la page 1127 des Bibles bleues. 1 Corinthiens, verset 12. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 1, verset 12. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez. Et j'espère que vous comprendrez complètement, puisque vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre sujet de fierté, de même que vous serez aussi le nôtre, le jour du Seigneur Jésus. C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a marqués aussi de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuions à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui que j'ai attristé? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée par ceux qui devaient me donner de la joie. Car en ce qui vous concerne, je suis convaincu que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos, parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Nous allons nous pencher sur deux idées fortes de cet extrait, un petit peu long. Le message, je l'espère, ne le sera pas trop. Tout d'abord, Paul rétablit la confiance et la vérité. Paul rétablit la confiance et la vérité. Dans un deuxième temps, Dieu garantit la confiance et la vérité. Premièrement, donc, Paul rétablit la confiance et la vérité. Je l'ai dit en introduction, l'accusation dont l'apôtre Paul ici fait l'objet concerne tout simplement, tout banalement, ses projets de voyage. À ce moment-là, l'apôtre était basé à Éphèse, dans l'ouest de la Turquie. Dans le cadre d'un voyage missionnaire en Macédoine, donc au nord de la Grèce, il avait initialement prévu de faire un détour par le sud et de passer par Corinthe, non seulement au retour, mais aussi à l'aller. Donc, une double visite, en quelque sorte, sur le chemin de la Macédoine et au retour. À un moment ou à un autre, manifestement, l'apôtre Paul a fait part de ce projet aux Corinthiens. Peut-être que c'était en partant, à la fin de sa fameuse visite difficile, qu'il leur a dit « Je reviendrai bientôt chez vous ». Ou peut-être était-ce à un autre moment. En tout cas, Paul reconnaît qu'il avait effectivement le projet d'une visite supplémentaire. Verset 15. « C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce, ou d'autres comprennent, afin que vous ayez deux fois l'occasion de me donner une grâce, peut être compris dans les deux sens. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. » Mais Paul va ensuite changer d'avis. On va voir bientôt pourquoi. Il va finalement aller directement en Macédoine, sans passer par Corinthe. Encore une fois, leur relation était compliquée, et les Corinthiens avaient un problème de confiance à l'égard de Paul. Et par conséquent, quand la confiance n'est plus là, tout devient suspect. On pourrait sans doute en témoigner les uns et les autres dans diverses situations que nous avons traversées. Et apparemment, les Corinthiens, en tout cas certains d'entre eux, peut-être pas tous, certains Corinthiens sont vexés par ce changement de programme et accusent Paul de ne pas savoir ce qu'il veut. Tite, qui a porté la lettre de Paul, a rapporté cette réaction et l'apôtre donc répond ici à partir du verset 17. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? En gros, est-ce que j'ai pris une décision à la légère alors que j'étais pas capable de suivre ensuite? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Paul prend le temps de répondre à l'accusation parce que d'un point de vue chrétien, c'est une accusation sérieuse de ne pas savoir ce que l'on veut ou bien plus d'avoir une parole qui n'est pas ferme. Jésus déjà invitait ses disciples à avoir une parole ferme. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal, évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 35, 37. Vous imaginez un mariage où les deux futurs époux, l'un des deux futurs époux en tout cas, lorsqu'on leur pose la question « Voulez-vous prendre pour épouse une telle ?» répondent « Oui, non, enfin un fille, je ne sais pas, qu'en pensez-vous » On imagine mal. Ou encore un baptême. Comment imaginer tout à l'heure Harry qu'elle ait pu répondre « Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ?»« Ah, je ne sais pas. » Non, nous avons entendu, merci Seigneur, un oui ferme à chacune des trois questions. La cérémonie de mariage ou de baptême, ça fait partie de ces occasions où on prend conscience de l'importance et de la solennité que peut avoir une parole donnée. Mais dans un sens, en tant que chrétien, ce sont toutes nos paroles qui devraient avoir cette fermeté. Et Paul est parfaitement d'accord. Précisément, il se défend d'avoir formé des projets à la légère. Oui, c'est vrai, il avait le projet de venir à Corinthe plus tôt. Mais s'il a repoussé sa venue, ce n'est pas par inconstance, mais c'est pour le bien des Corinthiens. Comme on le verra. Mais avant cela, avant même d'expliquer concrètement pourquoi il a retardé sa visite, Paul élargit la discussion. Et il fait le lien entre sa démarche en tant qu'apôtre, son ministère, et la fiabilité de Dieu lui-même. Non pas parce que Paul se prend pour Dieu, mais parce que ce qui le préoccupe dans ses relations avec les Corinthiens, ce ne sont pas des motifs purement humains, selon la chair littéralement, mais c'est la parole de Dieu. Pour Paul, la question décisive ne concerne pas sa personne, ni les détails de son voyage, ce n'est pas ça la question. Mais c'est la présence ou l'absence d'une relation de confiance avec les Corinthiens. Relation de confiance indispensable pour qu'il puisse exercer son ministère. Parce que ce qui préoccupe vraiment l'apôtre Paul, c'est l'évangile. Et c'est la manière dont les Corinthiens vont être prêts à recevoir cet évangile. Et je crois que s'il ne répond pas immédiatement à l'accusation concernant ses projets de voyage, c'est pour bien montrer que la question essentielle n'est pas là. Le début du texte au verset 12 nous donne déjà une indication du vrai souci de Paul. « Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez. » Autrement dit, vous pouvez faire confiance à ce que nous vous écrivons et disons, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de message caché. Notre parole est claire et ferme. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes ou faire prévaloir nos préférences et nos intérêts, mais pour être les porteurs de la bonne nouvelle de Dieu. On voit plus tard dans la lettre que certains Corinthiens accusent Paul de duplicité, de ruse, de manipulation. Et en fait, pour Paul, la question de ses projets de voyage, c'est qu'un symptôme superficiel d'un problème bien plus profond. Les Corinthiens ne font pas confiance à sa parole et à ses lettres. Or, puisque Paul est l'apôtre de Jésus-Christ, puisque sa parole est porteuse de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est bien à Dieu qu'ils ne font pas confiance en réalité. Autrement dit, si les Corinthiens ne sont même pas capables de faire confiance à Paul lorsqu'il leur parle de ses projets de voyage et des motivations de son voyage, comment le croiront-ils lorsqu'il parle de l'Évangile ? Je pense que bien souvent nous sommes comme eux, nous nous laissons distraire de l'essentiel, l'Évangile, par des détails, des tensions humaines toutes banales, des malentendus, des différences secondaires. Dans nos relations avec nos frères et sœurs, nous nous intéressons parfois bien plus au fait qu'un tel m'a dit ceci il y a 2 semaines, un tel ne m'a pas dit bonjour, une telle n'a pas arrêté de parler sans écouter. Ou bien peut-être que nous avons décidé que telle personne avait tel défaut. Peut-être d'ailleurs que c'est vrai en soi. Et mais du coup, nous avons décrété que nous ne serons plus jamais à son écoute, que nous ne pouvons rien apprendre de lui ou d'elle, qu'il ou elle ne pourra jamais être un exemple pour nous. En fermant nos cœurs à nos frères et sœurs, nous fermons nos cœurs à l'Évangile qui est à l'œuvre dans leur vie comme dans la nôtre. Avons-nous bien compris que ce qui doit être la priorité dans nos relations, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Sommes-nous prêts à ce que la puissance de Dieu, c'est ainsi que Paul décrit par ailleurs l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut du quiconque croit, sommes-nous prêts à ce que la puissance de Dieu balaye nos petitesses relationnelles ? Est-ce que nous pourrions dire, comme Paul, que nous serons les sujets de fierté les uns des autres au jour du retour du Seigneur? Est-ce que nous pourrions le dire? Aurons-nous tant goûté ensemble à la grâce de Dieu dans cette vie que lorsque le Seigneur reviendra, l'une de nos plus grandes joies, ce sera la présence de nos frères et sœurs avec nous pour vivre ensemble cette grâce pour toujours. L'apôtre Paul veut rétablir la confiance avec les Corinthiens parce qu'il veut que sa relation avec eux soit centrée sur l'Évangile et que cette relation soit propice à ce que l'Évangile soit communiqué. Et il les assure que sa préoccupation n'est pas de jouer avec eux, entre guillemets, de faire preuve de légèreté. Verset 17. Ses intentions et celles de ses collaborateurs sont pures. Il ne faut pas comprendre par là que l'apôtre Paul pensait être un homme parfait. Par ailleurs, dans un autre de ses textes, il se décrit comme le premier des pécheurs. Mais ses démarches à l'égard des Corinthiens n'ont rien à voir avec sa personne en tant que telle, et tout à voir avec la bonne nouvelle de Christ et son accueil par les Corinthiens. Et c'est seulement au verset 23, lorsqu'on regarde le texte, que Paul finit enfin par expliquer pourquoi il a repoussé cette fameuse visite. Il a bien montré que ce n'était pas là vraiment l'essentiel, mais il l'explique. « Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. » Et il explique « Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. » La dernière visite de Paul s'était mal passée. Et les Corinthiens avaient mal, en tout cas certains d'entre eux, avaient mal agi, et en lisant un peu entre les lignes, on a le sentiment que si certains ont mal agi, toute la communauté a fait preuve de passivité, d'une certaine lâcheté dans la gestion de cette situation. Et Paul estime que s'il était rapidement venu les voir, leur rencontre aurait été avant tout marquée par la tristesse. Et donc il a préféré laisser passer un peu de temps, d'autant plus qu'il sait qu'ils tiennent ferme dans la foi au fond. Il fait confiance à l'œuvre que Dieu va faire dans leur vie. Il préfère donc laisser du temps et envoyer une lettre. Donc l'apôtre n'a pas changé ses projets en raison d'une inconstance. Tiens, j'ai envie d'aller à Corinthe, tiens, finalement je ne vais pas y aller. Ou je ne vais pas y aller parce que j'ai été vexé. Non, il a repoussé sa visite pour laisser du temps aux Corinthiens de prendre conscience de leur faute, pour qu'ils puissent entreprendre les démarches nécessaires et revenir de leur propre initiative à de meilleurs sentiments. Et quelle émotion on ressent chez l'apôtre Paul au verset 4 du chapitre 2 lorsqu'il dit « C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. » Or, le fait est que cette lettre a porté du fruit. Les versets 5 à 11 montrent que les Corinthiens ont entrepris une démarche auprès de l'homme qui avait apparemment insulté ou diffamé Paul. Ils lui ont infligé un blâme, verset 6. Et de façon émouvante, Paul les invite maintenant à pardonner à cet homme et à l'encourager. Là encore, le but de Paul n'était pas de faire valoir son bon droit en tant que tel, mais de voir chacun, y compris celui qui a fait une faute, trouver en Jésus-Christ les ressources de repentance, de réconciliation, de paix et de joie qu'il offre. Mais on l'a vu un peu plus tôt, Paul ne se contente pas de répondre aux accusations de certains Corinthiens concernant son itinéraire. Il saisit cette occasion pour leur parler de ce que cela implique d'être disciple d'un Dieu parfaitement digne de confiance. C'est notre second point, un Dieu qui garantit la vérité et la confiance. Au verset 17, Paul pose une question rhétorique. En formant ce projet, donc de passer deux fois par la Macédoine, ai-je donc fait preuve, ou par Corinthe plutôt, en allant en Macédoine, ai-je donc fait preuve de légèreté? Et on s'attend à ce que la réponse implicite soit « mais pas du tout, vous n'avez rien compris ». Mais en fait, on a vu que Paul attend le verset 23, plus loin, pour donner la raison concrète de ce changement de programme. L'apôtre va prendre l'occasion de parler de la fiabilité de Dieu et de la fermeté des projets de Dieu. Pour lui, c'est ça qui est prioritaire, plutôt que de défendre immédiatement son bon droit. Je cite le verset 18. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. » C'est très important de comprendre ce que Paul veut dire par là, parce qu'on pourrait mal le comprendre. Est-ce qu'il faut comprendre que Dieu dit oui à tout ce que nous voulons? Je peux dire, faire et demander ce que je veux, je sais que Dieu dira toujours oui. Un peu comme dans le film que je cite une fois tous les deux ans, Bruce Tout-Puissant, une pure fiction bien sûr, mais où le personnage qui se voit confier pour un temps la puissance de Dieu, il décide de répondre oui à toutes les prières parce que c'est plus simple. Oui à tous. Et on voit que c'est la catastrophe absolue. Heureusement que Dieu ne répond pas oui à toutes nos prières. et à toutes les prières de chacun. Heureusement que Dieu ne dit pas oui à tous mes désirs. Et ce n'est assurément pas ce que Paul veut dire ici. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Au verset 19 et 20, il le précise. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. On a vu la pureté des motifs de Paul à l'égard des Corinthiens. Il ne veut pas les tromper, il ne veut pas agir avec légèreté, mais au contraire, il veut voir leur croissance dans la foi, leur amour, leur joie en Jésus-Christ. Et donc, ses motivations à l'égard des Corinthiens, à lui, l'apôtre Paul, ne sont pas oui et non, mais oui à tous égards. Et on voit d'ailleurs que même à l'égard de l'homme qui l'a blessé, Paul dit oui, oui à la réconciliation, oui à la grâce. Mais cela ne vient pas de Paul lui-même. Paul agit ainsi parce qu'il est le disciple et l'apôtre d'un Seigneur qui est le oui massif de Dieu à toutes ses promesses à notre égard. Par l'envoi de Jésus-Christ, par sa mort à notre place sur la croix, sa résurrection au troisième jour, par ses actes extrêmes consentis par amour pour nous, le Créateur de l'univers a prononcé un oui en notre faveur que rien ni personne ne pourra effacer. C'est aussi cela qu'Harry a rappelé tout à l'heure. Et l'apôtre Paul le dit avec une force extraordinaire. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ que se trouve le oui. Dieu ne répond pas toujours oui à ce que nous désirons dans l'instant. Mais il répond oui à notre besoin le plus profond, qui est de lui appartenir, de trouver en lui le sens de notre vie et notre identité. Oui à celui et celle que nous sommes, grâce au plein pardon qu'il nous accorde par le sacrifice de Jésus. Oui à notre présent, oui à notre avenir, et pour toujours. Si nous avons reçu le don de la vie nouvelle en Christ, même si nous devions demander 10 000 fois à Dieu, « Seigneur, est-ce que je compte à tes yeux ? Est-ce que tu désires mon bien ? Est-ce que je peux m'attendre à recevoir de ta part ce qu'il y a d'absolument meilleur ?» Alors 10 000 fois, il répondrait oui. En Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 32, Paul dit à peu près la même chose dans un autre langage, en précisant un peu plus sa pensée. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» La logique de ce texte est aussi magnifique qu'implacable. Si Dieu a été prêt à livrer à la mort son Fils unique, son vis-à-vis éternel, ce qu'il a de plus cher pour nous, alors il n'y a pas de limite au bien que Dieu va nous faire. En quoi Dieu pourrait-il nous léser, nous frustrer, alors qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux pour nous ? Si Dieu nous a donné son propre Fils, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'ultimement précieux qu'il ne nous donnera pas ? Et face à cette stupéfiante générosité, tout ce qui nous est demandé, c'est de répondre au oui de Dieu par un Amen, verset 20, qui atteste que Dieu a tout fait pour nous et qu'il ne nous reste plus qu'à recevoir sa vie, sa présence, son amour. Notre Amen, c'est notre propre oui, faible, hésitant, mais joyeux, au oui de Dieu en Jésus-Christ. Paul invite donc les Corinthiens à sortir des schémas de la suspicion, de la médisance, de la rivalité et de tourner les regards vers celui qui leur a déjà dit oui pour toujours. Regarder à Christ, c'est prendre conscience une fois de plus que si nous avons Jésus-Christ, il ne nous manque rien de ce qui est essentiel. Et bien plus, en lui nous avons et nous aurons tout ce qu'il y a de plus précieux. Alors pourquoi perdre notre temps dans des querelles stupides, dans la frustration, dans les rivalités, dans la méfiance ? Pourquoi vivre une vie marquée par le « peut-être que oui, peut-être que non » alors que Dieu nous invite à vivre au quotidien son « oui » ? C'est vrai que la vie humaine comporte encore sa part de souffrance, de difficultés, de déception, y compris de la part de chrétiens. Et l'apôtre Paul est très bien placé pour le savoir. Lui-même a été attaqué en quelque sorte dans l'église de Corinthe. Il sort aussi d'une période où il a été terriblement éprouvé, comme il l'a raconté au tout début de la lettre. Il est donc bien placé pour savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement un champ de roses permanent. Mais précisément, puisque la vie présente est encore marquée par la souffrance et les difficultés, puisque nous sommes encore tentés chaque jour de ne pas faire confiance à Dieu, eh bien Dieu nous donne les plus belles raisons de tenir ferme. Nous n'avons plus à prouver la valeur de notre vie, parce que Dieu a déjà dit oui à notre vie. Nous ne devrions pas tolérer des tensions et des conflits entre nous, alors que Dieu nous a tous comblés en Jésus-Christ, de sorte qu'il ne nous manque rien d'essentiel. Alors pourquoi nous disputer, puisque nous avons tout reçu ? Nous n'avons pas à douter de la bonté et de l'amour de Dieu, alors que dans la personne de son Fils, Dieu fait homme, il a préféré prendre lui-même la peine que méritaient nos fautes. Et Dieu ne s'est pas contenté d'agir ainsi pour nous par le passé, mais il garde encore en réserve l'accomplissement final de ses promesses, le renouvellement de toute la création. Au verset 22, Paul rappelle que Dieu nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur, une preuve de ce qui est à venir. En travaillant dans notre vie par le Saint-Esprit, Dieu nous donne une preuve supplémentaire de ce qu'il nous a attaché à lui pour toujours. Et lui-même nous donnera et renouvellera les ressources de joie, de paix, d'espérance, de grâce dont nous avons besoin au quotidien. Que cette assurance nous libère pour être des hommes et des femmes qui sont dignes de confiance et qui se font confiance les uns aux autres. Qui ne perdent pas leur temps dans de piètres conflits, alors que nous devrions tous ensemble célébrer le oui de Dieu qui nous remet en marche, qui nous comble du plus grand bienfait imaginable, et d'ailleurs dans un sens il dépasse l'imagination de loin, une relation éternelle avec le Créateur. Soyons de ceux qui, face aux blessures, aux difficultés, aux déceptions de la vie, ont le réflexe de tourner les yeux vers le Dieu Saint, qui avait toutes les raisons de nous dire non, pécheurs que nous sommes, mais qui a choisi au prix de son propre sang de nous dire oui. Amen.